Il faut choisir, rester prêtre ou rester ouvrier. Nous sommes le 1er mars 1954, il y a 50 ans, le Vatican vient de mettre fin à l'expérience des prêtres ouvriers. Jean-Marie Huret, lui, n'hésite pas, il restera ouvrier et deviendra, ce que l'on a appelé par la suite, un prêtre ouvrier insoumis. Bonsoir et bienvenue à vous tous dans le deuxième volet de cette page douloureuse de l'histoire de l'Église contemporaine. Bastien Meucli signe la réalisation de ces émissions et Catherine Erard est en votre compagnie.
À vue d'esprit.
La décision du Vatican d'interdire les prêtres ouvriers fait l'effet d'un véritable bulldozer. Elle vient écraser tout le travail de réflexion, tout le vécu de ces prêtres qui ont choisi de rejoindre la classe ouvrière. Le séminaire de Lisieux, le lieu de formation de ces prêtres d'un nouveau genre, les prêtres de la Mission de France, est fermé par décision de Rome. Son directeur, Louis Augros, est obligé de démissionner. En 1954, Jean-Marie Huret termine, lui, les 3 ans en paroisse. 3 ans avant que les séminaristes de Lisieux ne rejoignent le monde rural ou le monde ouvrier. L'heure du choix déchirant a sonné, prêtre ou ouvrier.
Je terminais l'engagement que j'avais pris d'accepter de faire 3 ans en paroisse. J'étais assez malheureux d'ailleurs, mais enfin, j'ai fait ce que j'ai pu et ce que j'ai eu à faire. Non, donc j'avais bien prévu déjà en 51 qu'en 54, je rejoignais l'équipe de prêtres ouvriers du Havre, c'est-à-dire Jean Cotin et Jo Lafontaine. Et donc au mois de novembre 54, j'ai quitté la paroisse où j'étais, j'ai rejoint l'équipe, je suis rentré en usine. Cette démarche-là me faisait que j'étais exclu en même temps. En même temps que je m'engageais, j'étais exclu. C'était un paradoxe, enfin, un peu ça. Je m'engageais pour faire ce pour quoi j'avais été formé. Et au moment où je le faisais, j'étais exclu, puisque l'interdiction... Les prêtres ouvriers devaient quitter l'usine et moi, je rentrais, quoi.
Vous étiez mis finalement devant le choix, vous étiez ouvrier ou vous étiez prêtre. Mais pas les deux.
Oui, c'est à ce moment-là, oui. Oui, bien sûr, à ce moment-là, c'était ça. Mais il y avait d'autres prêtres ouvriers qui prenaient la décision de rester là où ils étaient. Il leur était impossible de rompre l'engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis du monde ouvrier, et en plus, sur le terrain où ils étaient en usine, de quitter leurs engagements, leurs responsabilités, leurs relations, enfin, tout ce qui faisait leur vie. Donc, ils ont décidé de s'insoumettre en restant là où ils étaient, là où on les avait envoyés, d'ailleurs, au fond. Ils sont restés là où on les avait envoyés.
Pour vous, cette décision, Jean-Marie Huret, ça a été un dilemme ou bien ça s'est imposé?
Ça a été un dilemme parce que ça s'est imposé, quoi. Ça s'est imposé en conscience, intellectuellement, spirituellement, moi et d'autres. Il y avait une évidence qui était là où il fallait être, au nom de l'engagement pris, parce qu'on engage sa vie, hein, c'est pas rien que d'engager sa vie. Donc c'était là qu'était le dilemme, c'est que en conscience on ne pouvait pas aller contre sa réflexion, sa foi personnelle, contre tout ce qui faisait qu'on était ce qu'on est, sous prétexte d'une obéissance à une autorité, un diktat, qui était contre la raison, contre l'engagement pris, enfin, rien ne tenait sinon la soumission, une espèce de valeur spirituelle qui était donnée par la hiérarchie catholique en disant « Vous vous soumettez, et c'est ça votre vie spirituelle, c'est de vous soumettre à l'Église. »
Et vous, ce discours-là, il avait un impact sur vous ?
Ben, ce discours-là n'avait aucun impact. Il y avait l'obéissance à sa conscience, à ce qu'on croyait, à ce qu'on avait déjà donné. Donc, mais il y en a beaucoup qui ont été démolis par ce choix.
Thank you. Et tous les évêques étaient alignés sur le Vatican, ou est-ce qu'il y avait une dissension au sein des évêques?
Non, il y en a quelques-uns qui au début ont essayé de... qui ont dû aller à Rome pour dire c'est pas possible, mais devant la détermination absolue du Vatican et de Pie XII, le début de la guerre froide, la hantise du communisme, des prêtres qui dans une usine adhéraient à la CGT, dans le syndicalisme, tout ça c'en était trop, donc il fallait les prêtres ouvriers qui étaient en usine ont été obligés de quitter l'usine, de quitter tout et de reprendre un sacerdoce traditionnel. J'ai eu l'impression d'un bulldozer qui venait casser tout ce qu'on avait fait en 10 ans, toute cette réflexion, toute cette recherche spirituelle de l'Évangile. Louis Augros m'avait dit, quand je suis parti en stage pour la première fois, il m'avait dit, bon alors Jean-Marie, tu sais, tu vas à l'école des pauvres, tu vas rencontrer les petits, tu vas rencontrer les pauvres, et ce sera ton école, celle-là. Donc, cet espoir considérable qu'avait apporté la mission de France, tout s'écroulait, quoi.
Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire... peut-être que le supérieur du séminaire, qui était votre maître spirituel, au gros, s'est trompé. Peut-être qu'on a fait fausse route.
Non, il n'y a pas eu une seconde. Non, à partir du moment où ils ont tout cassé, moi, j'ai fait mon choix, déjà. J'ai dit, en 52, 53, c'est terminé. J'ai été au bout, et en 54, j'ai été rejoindre l'équipe de prêtres-ouvriers du Havre, qui était installée, d'ailleurs, depuis 2 ans à peine.
Est-ce qu'il y avait des pressions qui étaient faites sur vous? Est-ce qu'on vous a dit, vous êtes un orgueilleux, vous suivez ce que bon vous semble, et puis vous ne faites pas confiance à la hiérarchie?
Bien sûr, enfin moi personnellement, et du milieu familial d'où j'étais, encore que je tiens à dire que ma famille et mes frères et sœurs m'ont fait confiance sans faiblir, mais dans le milieu, bien sûr, on était des renégats ou des défroqués ou des orgueilleux, comme vous dites, ou s'insoumettre, c'était un suicide, oui. J'ai entendu ça. Tu te suicides si tu ne te soumets pas. Et moi, j'ai répondu à ce moment-là, je me suicide si je me soumets.
Est-ce que le dilemme était aussi entre choisir une fidélité à l'Église et une fidélité à l'Évangile?
Oui, mais bien sûr, mais c'est comme ça qu'on s'y retrouvait, c'était de se dire, c'est absolument inconcevable qu'il y ait une contradiction entre l'Évangile et l'Église, c'est l'Évangile qui nous a inspiré notre engagement, on reste branché sur l'Évangile, bien sûr.
Quel regard est-ce que vous portiez sur ceux qui ont choisi, eux, de se soumettre à la hiérarchie?
Il y a eu une réunion historique à laquelle je n'étais pas, mais enfin, il y a eu à un moment donné une centaine de prêtres ouvriers qui se sont réunis et qui ont décidé au cours de cette réunion de faire un choix, ceux qui se soumettaient et ceux qui ne se soumettaient pas. Et il y a eu un immense respect réciproque quant aux décisions prises par les uns et par les autres. Il y a eu un silence de respect, c'est tout ce qu'on peut dire, mais ça a été très très fort. Et puis parmi ceux qui se sont soumis, il y avait aussi ceux qui pensaient bien continuer à se bagarrer dans l'Église pour retrouver leur engagement. Enfin. Et puis il y a ceux qui restaient là où ils étaient. Au fond, c'était peut-être de manière différente, mais complémentaire, de réagir devant l'événement du diktat, quoi. L'équipe de prêtres-ouvriers du Havre ont débarqué au Havre en 52, nommé prêtre-ouvrier par Mgr Martin, archevêque de Rouen. Et moi, je les ai rejoints en novembre 54. Alors, où est-ce qu'elle est, cette lettre? Voilà. Jean et Jo restent au travail après le 1er mars 1954, date limite de l'injonction des évêques. Ils sont sanctionnés par l'archevêque de Rouen, qui applique à la lettre les décisions de Rome à l'encontre des prêtres insoumis. Ils sont frappés d'une sanction suspens ad divinis, c'est en latin, pour employer les termes précis du droit canon. Cela signifie qu'ils n'ont plus le droit de dire la messe, ni d'exercer aucun ministère sacerdotal, et qu'ils doivent déguerpir du diocèse de Rouen avant le 10 juillet 1954 pour rejoindre leur propre diocèse. Et je cite la lettre de Mgr Martin, « Puisque vous vous obstinez à rester prêtre-ouvrier malgré la défense formelle de l'Église, je ne peux vous maintenir l'autorisation de résider dans mon diocèse. »
Jean-Marie Huret, pour qu'on comprenne bien cette sanction-là, vous citez le droit canon, suspens ad divinis. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'ils n'osent plus célébrer la messe, qu'ils n'osent plus célébrer le sacrement, qu'ils ne sont plus prêtres?
Suspens ad divinis, cela signifie qu'ils n'ont plus le droit de dire la messe, ni d'exercer aucun ministère sacerdotal.
Finalement, ce qui les frappe, c'est aujourd'hui comme un prêtre marié serait frappé d'exclusion du sacerdoce. C'est exactement la même chose.
C'est une exclusion du sacerdoce. Ils n'ont plus de mission sacerdotale. On leur retire tout droit d'exercer un ministère sacerdotal.
Jean-Marie Huret, il y a dans votre livre aussi quelques pages qui sont assez poignantes où vous racontez la dernière messe que vous avez dite.
Oui, je ne m'en rappelais plus trop, ça. J'ai dû dire quelque part comme ça que je n'ai pas pu aller au bout et que j'ai pleuré. Et je me suis dit que ça avait dû être la prière de ma vie. J'ai pleuré.
Qu'est-ce que ça fait, Jean-Marie Huret, de s'être préparé pendant les années de séminaire, d'avoir été en paroisse, et puis au moment où enfin on peut exercer la vocation qu'on sent être la sienne, être prêtre ouvrier, de célébrer sa dernière messe, de devoir renoncer à la prêtrise?
C'est difficile à dire, hein. C'est le désert.
C'était la révolte pour vous?
Oh non, c'était même pas ça. C'était essayer de comprendre quelle forme prendrait cette mission dans le dépouillement complet. Et croire à l'Évangile.
Un bateau, voici plé dans la nuit. Largué, 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 tout, largué les amarres.
C'est quand disparaît le rivage que commence le voyage, que commence le grand large.
Que commence le grand large.
Voilà.
Un bateau est parti dans la nuit.
Un bateau est parti dans la nuit.
Un bateau a quitté
son pays. Au rythme de ses machines, contre le vent et les courants, de sa marche clandestine, il va vers le soleil levant. Largué, largué, largué tout. Mon frère était courtier maritime, et quand j'étais écrasé sous le poids des lettres de pression pour me dire... soumets-toi. Je lui ai dit, écoute, il faut que je m'en aille parce que je tiens plus. Alors je suis monté sur un bateau comme, je sais plus quoi, enfin pour comme secrétaire du commandant ou quelque chose comme ça. Bon. Et le bateau partait de Rouen. Et le commandant sur la passerelle, au moment de quitter le quai du port de Rouen, le commandant sur la passerelle crie « Larguez, larguez tout, larguez les amarres !» Et j'ai donc fait cette chanson-là en cours de... Ça correspondait tellement à ce qui se passait. Je quittais les quais de Rouen. C'était très symbolique, quoi. Mais donc, il y avait de l'espoir, là. Hein, quand je rentends, quand je redis ça, il y avait l'espoir. Et puis, le dernier couplet. Un bateau est sorti de la nuit. Au matin, il est tout ébloui. Mais poursuit sa marche fière et sa lutte passionnée. Le soleil de toute la terre éclaire enfin sa liberté.
À ce moment-là, vous vous êtes dit, c'est peut-être pour quelques années, et puis après, je pourrai à nouveau être prêtre, ou vous vous êtes dit, c'est fini.
Non, je n'ai plus imaginé quoi que ce soit pour l'avenir. C'était la réalité spirituelle, finalement. Et puis, alors, il faut dire aussi qu'on s'est assez vite regroupé, à quelques-uns, à une vingtaine. Notre ami Bernard Chauveau a fait un tour de France en se disant, il doit y en avoir d'autres comme moi, comme nous, et il faudrait qu'on se regroupe. Pour que la solitude ne se rajoute pas au désert, enfin. On a quelque chose à vivre, à inventer. Il faut qu'on se regroupe. Et ce groupe a dû être formé vers 56 et a duré jusqu'en l'an 2000, enfin. En dehors de toute structure, mais dans la vérité de nos engagements mutuels, quoi. Et après, à force de réfléchir ensemble, de partager nos vies, on a même pensé que cette rupture était, on l'a appelée fondatrice.
Larguer les amarres, c'est quitter l'église et devenir ouvrier. Mais en 54, les patrons ne veulent surtout pas d'anciens prêtres ouvriers parmi leur personnel. Je vous donne rendez-vous demain même heure avec Jean-Marie Huret pour la suite de cette histoire tourmentée. Si vous désirez approfondir cette question des prêtres ouvriers, une bibliographie est disponible sur notre site internet www.rsr.ch/esprit au singulier. Vous pouvez également commander un enregistrement de cette série d'abus d'esprit ou nous faire part de vos remarques en appelant notre répondeur le 021 318 60 70. 021 318 60 70. Excellente fin de soirée à vous tous.